Bienvenue au Pôle Sécur, épisode technique. J'ai à ce coin de Georges. Peux-tu te présenter?
Bonjour, je m'appelle Georges Badreau. Moi, je suis consultant au sein des équipes Mendiant, basé à Paris. Et je travaille beaucoup sur les infrastructures critiques, sur des systèmes industriels chez nos clients.
Très intéressant. Je vais faire un shout-out à Camille qui nous a présenté justement, qui a permis la matérialisation de cette rencontre-ci. Tu as fait une présentation sur les sous-stations électriques, qui est un système dans l'univers OT qui est très important dans le fonctionnement de l'électricité, ce qui fait qu'on est capable de bénéficier de cet élément-là, mais il y a beaucoup de complexité. Fait que je vais te laisser commencer avec ça.
Effectivement, donc quand on parle de réseau électrique, on le décompose souvent en trois zones, on va dire, principales. On a ce qu'on appelle la génération électrique, donc c'est les centrales hydrauliques, nucléaires, thermiques, renouvelables, qui vont permettre de générer de l'électricité. Pour transporter cette électricité vers les salles où on se trouve pour avoir de l'électricité dans les bâtiments, on va vouloir donc utiliser ce qu'on appelle le réseau de transmission électrique. Et donc c'est ce réseau qui va permettre de limiter les pertes en énergie quand on transporte cette électricité. Et c'est ce réseau qui va permettre d'équilibrer entre la production électrique et la consommation électrique pour garder une fréquence qui est stable sur le réseau. Et donc on comprend...
Et c'est très important que ça soit stable sur le réseau. Puis là, je fais déjà des apartés justement pour aider la compréhension. Parce qu'un réseau électrique, c'est pas comme un réseau d'eau. C'est-à-dire que l'eau, on peut juste balancer de l'eau dedans et ça va être correct. Un réseau électrique, il faut maintenir toujours cet équilibre-là entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Puis sinon, on va abîmer le réseau en quelque sorte.
Oui, exactement. Il y a ce principe d'avoir la production qui est égale à la consommation. Et donc, c'est ce réseau qui va permettre de balancer, de se balancer pour répartir la production là où la consommation est présente. Et donc, ce réseau de transmission, c'est un peu le nerf de la guerre quand on cherche à protéger, à sécuriser l'électricité au niveau de la distribution. Et donc, ce réseau de transmission, il est composé notamment de plusieurs sous-stations électriques qui sont les nœuds névralgiques et qui permettent de centraliser et puis de répartir l'électricité là où c'est nécessaire.
Ben, visuellement, une sous-station, c'est des espèces de grands parcs avec des grosses... On en voit tous un peu partout, dans les grands centres, on en voit plus, mais c'est toutes ces espèces de parcs avec clôturés et que l'électricité arrive, puis que tout se passe, puis ça fait un petit buzz. Physiquement, c'est ça que ça ressemble.
C'est ça, donc on peut voir les pylônes souvent qui vont se arriver à ce nœud. Et ce nœud, donc on va voir les transformateurs, on va voir peut-être les disjoncteurs qui permettent de couper ou de remettre le courant. Et donc c'est souvent une sous-station qu'on peut voir au bord d'une route ou à côté d'un champ. Voilà. Et donc au sein de ces sous-stations, on a plusieurs équipements physiques qui sont importants. J'ai parlé des transformateurs, j'ai parlé des disjoncteurs. Et d'un point de vue contrôle de cette sous-station, c'est surtout les disjoncteurs en fait, qui vont permettre aux opérateurs d'ouvrir les disjoncteurs, donc de couper le courant ou de les refermer et de remettre le courant. Et donc, on comprend, c'est forcément une cible qui est intéressante pour les attaquants. Et au-delà de ces équipements physiques, donc comme on le voit quasiment dans toutes les industries, aujourd'hui, ces équipements physiques ne sont plus opérés uniquement manuellement ou via du contrôle électrique. Aujourd'hui, on va avoir du contrôle numérique sur l'ensemble de ces équipements. On va avoir des IHM, des interfaces homme-machine, sur des ordinateurs dans des sous-stations. On va avoir du contrôle à distance depuis des centres de contrôle. Et donc, on va avoir des équipements informatiques qui vont permettre de faire tout ça. Et donc, en exemple d'équipements informatiques, on retrouve ce qu'on appelle les RTU, les Remote Terminal Units, qui sont le pont de communication entre le poste électrique lui-même. C'est une sorte de gateway entre le poste électrique, la sous-station électrique, et le centre de contrôle. On va avoir les relais de protection et de contrôle. Donc, ce sont les équipements électroniques intelligents qui permettent de monitorer les valeurs physiques au niveau des disjoncteurs, des transformateurs, et de prendre des décisions pour protéger ou contrôler ces équipements-là. Donc par exemple, si on détecte un court-circuit, c'est cet équipement-là qui va permettre de le détecter et d'activer des mécanismes de protection automatiques pour protéger les équipements. On retrouve aussi les interfaces aux machines, les postes d'ingénierie utilisés par les ingénieurs et les opérateurs au sein de la sous-station. C'est les espèces de consoles, de dashboards qui permettent d'agir sur le réseau de façon plus ou moins simple pour les opérateurs. Donc ils auraient un bouton pour ouvrir un disjoncteur ou le refermer plutôt que d'aller configurer quelque chose sur l'équipement lui-même. Et enfin, évidemment, on a tous les équipements réseau, les pare-feux, les routeurs, les commutateurs qui permettent d'interconnecter tous ces équipements entre eux.
Oui, tout à fait. De façon, encore plus en 2026 qu'avant, toute cette capacité de contrôler à distance est rendue maintenant plus que nécessaire, facilite énormément le travail. Puis il y a beaucoup de ces senseurs-là, de ces équipements-là, qui s'opèrent justement à distance pour réduire la charge d'humain. Donc, on a plus de concepts comme ça, mais ça amène aussi un paquet d'autres problèmes. Mais toute cette mécanique-là est absolument nécessaire. Puis, je pense que tu vas le mentionner plus tard, mais là, je vais peut-être devancer. Il y a aussi une communication entre les sous-stations et les unités de production électrique, puisque, comme tu le mentionnais très bien, la distribution, c'est une chose, mais il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Donc, il faut que si la charge augmente de consommation, il faut que la production soit conséquente, donc bien augmentée. Donc, un dialogue, si on veut, qui se fait aussi. Là.
Exactement. Et là où, dans le passé, on aurait pu se reposer sur une sorte de air gap, en fait, de ces systèmes, de ces réseaux, d'isolement de ces réseaux. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On est sur des réseaux qui sont interconnectés avec un centre de contrôle, interconnectés avec des tiers et des partenaires, d'où la nécessité de les sécuriser. Et donc, justement, en termes d'architecture, souvent, pour une entreprise qui opère un réseau électrique, on va avoir une architecture assez classique. On peut, on peut imaginer une sorte de Purdue model qui serait applicable en fait à ce réseau informatique avec donc Internet, les systèmes informatiques IT de l'entreprise. On a ensuite une DMZ qui permet de casser le trafic entre les systèmes IT et les systèmes industriels. Et donc après cette DMZ, c'est là où ce réseau OT serait décomposé en plusieurs niveaux. On peut avoir un premier niveau qui serait le centre de contrôle régional, national, ça dépend des cas, où on retrouverait les postes d'ingénierie régionaux, les IHM des opérateurs de ce centre. On peut retrouver des historians, des bases de données, des serveurs applicatifs, des serveurs SCADA. Et ensuite, c'est ce centre de contrôle lui-même qui serait interconnecté à l'ensemble des sous-stations qu'il contrôle à travers de connexions VPN, par exemple. On peut être sur des réseaux MPLS. Ça dépend des cas, ça dépend des entreprises. Et donc, on a ces sous-stations qui sont connectées à ce centre de contrôle via ce réseau. Ces sous-stations, on n'est pas du tout sur une architecture qui est standard. Chaque sous-station est faite de manière différente. On peut avoir des sous-stations qui sont connectées à ce réseau que via un routeur. On peut en avoir d'autres qui sont connectées via un pare-feu. Ce pare-feu peut être connecté à Internet ou non. Ça dépend des cas, ça dépend des configurations. Comme tu l'as très bien mentionné aussi, on peut avoir certaines sous-stations connectées directement à des centrales de génération électrique. En général, c'est fait en profitant du fait que des câbles électriques sont déjà présents entre la centrale et la sous-station. Et donc, on utilise ce qu'on appelle le PLC, donc Power Line Communication, à ne pas confondre avec le PLC, le contrôleur programmable. Et donc, on utilise cette connexion physique qui existe déjà pour transmettre des paquets TCP/IP. Enfin, évidemment, on pense souvent, à juste raison, aux accès distants qu'on peut mettre en place en fait sur ce type de réseau OT. Accès distants qui peuvent soit être présents, soit pour faciliter la vie des opérateurs qui peuvent ainsi se connecter au réseau depuis leur lieu de vie. Ça peut aussi être des accès distants à la main de tiers pour faire de la maintenance à distance. Et donc, dans certains cas, on peut tomber sur ces VPN OT qui donnent accès à ce réseau, donc à ce réseau entre le centre de contrôle et les sous-stations à distance directement.
Il y a une énorme multiplication des moyens de communication entre ces équipements-là, d'un univers très fermé, un peu comme tu mentionnais précédemment, où C'était isolé, il faisait peu. Maintenant, toutes ces sous-stations-là sont branchées d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers Internet, que ce soit à travers un réseau privé, probablement même à travers des réseaux cellulaires ou des d'autres moyens comme ça, qui permettent de contrôler, de surveiller constamment ces différentes sous-stations. Puis probablement que certaines sous-stations sont difficiles d'accès physique aussi, là, dans certaines zones plus rurales, ça doit être plus difficile, ou plus loin pour justement aller faire des opérations qui pourraient être faites à distance.
Exactement, ça permet de ne pas devoir attendre plusieurs heures le temps que la personne arrive à la sous-station. Et donc, il faut vivre avec cette situation qui présente un risque, et donc sécuriser ses accès et être certain que les détections qui sont mises en place sont fonctionnelles et permettent de détecter des comportements qui ne sont pas normaux sur ce SI. Donc, on a présenté, j'ai parlé de l'architecture d'un point de vue un peu plus haut niveau. On peut aller un peu plus dans le détail de ce à quoi ressemble au final le réseau d'une sous-station. Donc souvent, on a une première zone réseau qui va contenir les IHM qui permettent aux opérateurs d'interagir avec les équipements physiques. C'est là où on va avoir le RTU qui fait cette passerelle entre ce niveau du réseau et le centre de contrôle un peu plus loin. Et donc ces équipements-là vont ensuite être connectés à ce qu'on appelle les relais de protection et de contrôle. Les relais de protection et de contrôle, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est des équipements qui vont lire des valeurs physiques pour prendre des décisions pour protéger ou contrôler les équipements physiques. Et donc ça va lire des valeurs de tension, d'intensité, de fréquence, etc. Pour décider de couper le courant ou de garder le coin. Ces valeurs que les relais lisent en continu, c'est ce qu'on appelle les sample values. Et donc c'est ce qui permet donc de prendre ces décisions.
Et c'est important, donc ces équipements-là sont capables de prendre des décisions. Donc on les programme avec des valeurs, et de ces valeurs-là, les décisions sont automatisées dans l'équipement quand que les conditions se présentent. Si on parle du disjoncteur, ben donc si les conditions programmées sont définies, le disjoncteur va agir seul pour protéger effectivement le réseau d'une surtension ou de tout autre problème qui pourrait endommager physiquement le réseau. Là.
C'est exactement ça. Et là où un attaquant voudrait peut-être cibler les IHM, parce qu'on peut très facilement en fait ouvrir un disjoncteur à ce niveau-là, cibler ces équipements, donc ces relais, ça permet d'avoir des attaques un peu plus insidieuses qui permettraient, plutôt que de couper le courant uniquement, aussi d'influencer cette logique et donc de causer potentiellement des dégâts à ces équipements qui serait beaucoup plus coûteux à réparer qu'une simple ouverture du disjoncteur. Et donc ensuite, en termes de protocole, donc on est sur des choses assez classiques. Donc on a parlé du RTU. En général, le centre de contrôle régional ou national va communiquer avec ses RTU sur des protocoles type IEC 104 ou DNP3 en fonction des cas. Et puis on retrouve plutôt de la communication Goose un peu plus bas dans le schéma d'architecture sur la communication entre les relais de protection et de contrôle et les autres équipements physiques plus bas dans les niveaux d'architecture. Et donc j'ai commencé à parler des cibles en fait qui pouvaient être intéressantes pour les attaquants. Et donc on peut en fait avoir donc ces différentes cibles. L'attaquant peut vouloir attaquer l'IHM pour causer une disruption sur le réseau, mais donc voudra potentiellement attaquer les relais de protection et de contrôle qui sont une cible très importante qu'il faut sécuriser face à ces attaques. Et donc on pourrait se poser la question au final, comment est-ce qu'une attaque peut arriver sur ces équipements? Comment est-ce qu'on arrive à passer toutes ces couches de protection depuis l'IT, depuis Internet, jusqu'à arriver à ces équipements qui sont très bas dans l'architecture. Et donc ce qu'on voit souvent, c'est premièrement une reconnaissance et des premiers mouvements latéraux au sein du réseau IT. En général, l'attaquant va gagner un premier accès sur l'IT via du phishing, du vishing ou exploiter des vulnérabilités sur le réseau IT. Et à partir de là, l'attaquant va énumérer le domaine. Donc, lister les comptes, les partages réseau, les systèmes qui peuvent être peut-être avec des noms qui font référence à des systèmes à contexte OT. Donc, un serveur qui s'appelle SCADA, sous-station, peut-être une adresse physique, le nom d'une ville. Donc, on a énuméré le domaine et ça permet à l'attaquant d'avoir un premier niveau d'information qu'il va enrichir ensuite en cherchant de la documentation. Donc souvent, cette documentation, elle est stockée sur des partages réseau, sur des wikis. Et donc l'attaquant va passer du temps en fait à parcourir tous ces documents. Et il va, dans certains cas, chercher des fichiers de configuration avec des extensions spécifiques comme .prj, .set, et qui sont des fichiers qui peuvent être utilisés sur des équipements industriels. Et donc, il va chercher ces fichiers pour comprendre l'architecture qu'il va pouvoir retrouver dans les sous-stations un peu plus loin dans son scénario. En énumérant, donc en faisant cette phase de découverte sur réseau IT, souvent, on va retrouver des mots de passe en clair stockés dans des fichiers. Dans certains cas, ça peut être des mots de passe, par exemple, du VPN OT, qui permet d'avoir un accès direct au réseau industriel. Et enfin, donc les schémas d'architecture qui sont très importants pour très bien cibler l'attaque, être sûr qu'on a la bonne adresse IP sur le bon équipement pour causer les dégâts qu'on souhaite causer dans le cadre de l'attaque.
Et là, je vais faire ça parce qu'on n'a peut-être pas spécifié suffisamment clairement. C'est vraiment dans un contexte de Red Team, donc dans un contexte d'attaque synthétique. Un vrai attaquant n'ira pas aussi méticuleusement que ça, comme tu le mentionnes. Donc, on est vraiment dans un contexte où comme tout exercice de Red Team, c'est de trouver tout ce qui est possible et tout ce qui peut être corrigé pour éviter le pire après. Puis ça va amener justement dans la dernière section, de la troisième section que tu vas aborder, il y a des précautions qui sont prises par un Red Team pour ne pas créer des dommages. Ce qu'un vrai attaquant ne prendra pas ces mêmes genres de précautions-là, donc on n'est pas tout à fait dans la même zone.
Exactement. Donc ça, c'est quand on veut faire les choses bien, entre guillemets, c'est des choses qu'on va chercher à approfondir pour être sûr de ne pas causer d'effets inattendus dans le cadre de l'exercice. Et effectivement, l'attaquant va peut-être être un peu moins soucieux de ce genre d'éléments. Ça peut dépendre de l'objectif de l'attaquant, mais effectivement, dans la majorité des cas, ce n'est pas quelque chose sur lequel il va s'attarder. Et donc, j'ai parlé donc, de l'énumération initiale, découverte de données, de schémas d'architecture. Et en fait, une fois qu'on a fini ça, on va vouloir utiliser ces informations pour gagner un accès initial au réseau industriel. La chose qui peut ressembler, cet accès initial au type peut être fait de différentes manières. Ça peut être fait en se connectant à un VPN OT, si jamais il y en a un avec un mot de passe qu'on aurait identifié. Ça peut aussi identifier l'identification de flux qui sont autorisés au niveau du firewall entre la DMZ et le réseau OT. Et donc exploiter ces flux qu'on a identifiés pour gagner un accès au réseau OT. Dans certains cas, on peut retrouver par exemple des hyperviseurs qui hébergent des VM IT et des VM OT. Hyperviseurs hébergés dans l'IT, et donc si on le compromet, on va gagner cet accès à des VM OT. Donc c'est du cas par cas, ça dépend de ce qu'on retrouve et c'est là où souvent on est un peu opportuniste et on utilise ce à quoi on a accès. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, une fois qu'on a ce premier accès à l'OT, on va certainement pas lancer un scan Nmap sur l'ensemble des ports des plages IP auxquelles on a accès. On va vouloir causer le moins de dommages, le moins d'impact possible sur ces équipements-là, surtout dans le cadre d'un Red Team. Et donc, on va faire de la reconnaissance plus furtive. Alors, déjà, on avait les schémas d'architecture, peut-être des inventaires, des systèmes. Donc, on a potentiellement déjà repéré quelques équipements, quelques adresses IP qui seront intéressantes. Mais si c'est possible, on aime bien aussi lancer une analyse passive du réseau. Donc, si on a accès à un pare-feu ou un commutateur, lancer une écoute du réseau, du trafic qui passe sur cet équipement pour identifier le type de message, les protocoles utilisés, les adresses IP des équipements qui communiquent et aussi les adresses MAC des équipements qui communiquent sur ce réseau-là pour tenter d'associer le préfixe de cette adresse MAC à des vrais équipements physiques. Une fois qu'on est assez confiant dans le genre d'équipement qu'on a en face de nous, de leurs adresses IP, en fonction de l'équipement, on peut utiliser des logiciels en fait, qui sont utilisés par les opérateurs eux-mêmes, par les ingénieurs eux-mêmes, pour communiquer avec ces équipements. Donc ici, on n'a pas vraiment de risque parce que ce sont des logiciels légitimes utilisés dans le cadre des opérations normales et donc qui peuvent être utilisés aussi dans le cadre de notre Red Team. Et enfin, on a des scripts spécialisés aussi qui permettent de communiquer sur des protocoles type Modbus, DNP3, etc. Et donc si on retrouve ce genre de protocole sur le réseau, on peut utiliser ces scripts-là pour communiquer avec les équipements qui comprennent ces protocoles. Une fois qu'on a réussi à communiquer avec ces équipements, on va chercher donc, à identifier leurs failles et à commencer à les exploiter. Et donc c'est là où on peut commencer à exploiter ces vulnérabilités. Donc souvent, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que c'est des vulnérabilités basiques. On est sur des mots de passe par défaut sur une interface web. Donc souvent, les équipements vont avoir une interface web pour la configuration. Donc, configurer des adresses IP, d'écoute, d'interface ou ce genre de choses. Et donc, on va avoir des mots de passe par défaut sur ces interfaces-là. De même, pour des interfaces SSH, Telnet, où souvent, malheureusement, on tombe encore sur des mots de passe par défaut. Et donc exploiter ces vulnérabilités permet de gagner un premier accès aux équipements vulnérables. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est que une fois qu'on débriefe en fait avec le client, avec les équipes, c'est que certaines de ces fonctionnalités sont cachées ou en tout cas sont inconnues par les équipes. Et donc parfois ça peut être en fait une fonctionnalité qui est utilisée par le fournisseur du matériel pour pouvoir configurer le matériel en cas de problème, mais donc on n'est pas du tout sur des interfaces qui sont nécessaires à l'opération, et donc on peut s'imaginer que pour sécuriser ces équipements, on peut bloquer l'accès à ces interfaces. Bien sûr, on doit changer les mots de passe par défaut, et donc, mais en fait, faire cet exercice, ça permet aux équipes de se rendre compte aussi de ces interfaces-là, de ces mots de passe par défaut dont ils n'avaient aucune connaissance parce qu'ils ne les utilisaient pas. Et donc, on est déjà sur quelque chose qu'on peut apporter aux clients à ce niveau-là. Une fois qu'on a gagné accès, on va dire, à un premier niveau d'équipement, donc souvent, ça va être une IHM ou un commutateur. Souvent, donc, comme on le disait tout à l'heure, on va chercher à aller un peu plus loin dans le scénario. On a quand même envie d'accéder au relais de protection et de contrôle. Et donc, c'est à partir de l'IHM. Typiquement, on peut essayer de comprendre les valeurs qui sont affichées à ce niveau-là, les schémas, les diagrammes qui sont affichés au niveau de l'IHM, pour repérer d'autres équipements qu'on n'aurait peut-être pas encore vus dans le cadre de l'écoute passive ou qu'on n'aurait pas vus dans les schémas qu'on a identifiés précédemment. Et donc en faisant cette analyse, après avoir gagné ce premier niveau d'accès, ça permet de continuer le scénario d'attaque et de pouvoir cibler de façon très chirurgicale les équipements qui nous intéressent. Et donc ça, c'est l'approche de Red Team qu'on déploie en général et en particulier sur les réseaux électriques qu'on cible pour nos clients. Et les précautions qu'on doit mettre en œuvre pour être sûr de ne pas impacter négativement ces équipements-là. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi de parler globalement des TTP d'une compromission réelle. Et donc là, je vais parler de comment l'attaque qu'il y a eu en Ukraine en 2015 se traduit aussi. Je vais parler de l'attaque qu'il y a eu en Pologne en décembre 2025 et je vais parler de quelques exemples qu'on peut mettre en place dans le cadre de nos missions chez Mendiant. Et donc pour commencer avec l'Ukraine en 2015, au final on se rend compte que le scénario a commencé sur l'IT, donc on est sur une attaque IT à l'origine, avec un premier phishing qui a ciblé des utilisateurs côté IT. Une fois que le malware a été déployé, donc via macro, avec le malware Black Energy, l'opérateur, l'attaquant, a cherché à a fait donc son étape de découverte, comme je le décrivais précédemment. Donc, ils sont tombés sur des mots de passe pour le VPN OT, pour une sous-station. Une fois ces mots de passe récupérés, ils sont connectés au VPN. Et depuis cet accès VPN, donc ils avaient accès aux IHM, au RTU et au switch Moxa qui permettent de faire de la conversion entre des valeurs, entre du réseau TCP/IP et d'autres accès séries. Une fois qu'ils sont en fait authentifiés donc sur ces IHM et ces RTU et Moxa, ils ont cherché à se latéraliser un peu, mais sans grand succès. Et au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'IHM pour actionner le disjoncteur, donc pour l'ouvrir, couper le courant. Et pour empêcher les opérateurs de reprendre la main sur les systèmes, ils ont déployé un firmware corrompu et sur les RTU, donc pour empêcher le centre de contrôle régional de prendre la main. Et ensuite, ils ont aussi changé le firmware sur les switches Moxa, ce qui a empêché aussi la prise en main locale sur certains des équipements. Et donc, on est sur une attaque, au final, assez destructive, qui a cherché uniquement à couper le courant sur une partie de l'Ukraine. On peut comparer ça à l'attaque qu'on a eue en Pologne en décembre 2025, qui était assez différente par le fait qu'elle n'a ciblé que l'OT. Donc, l'attaquant n'a pas du tout cherché, en tout cas au premier abord, de se lancer à cibler des systèmes IT des opérateurs du réseau. Et ils ont exploité uniquement des vulnérabilités qui étaient présentes sur les pare-feux au niveau des sous-stations, donc le pare-feu de la sous-station, qui se trouve, pour certaines, avait un accès à Internet. Et il se trouve que ces pare-feux n'étaient pas patchés, donc il y avait une vulnérabilité, une CVE qui était connue et qui est restée sur ces pare-feux pendant plusieurs semaines. Et donc l'attaquant a pu exploiter cette vulnérabilité pour gagner cet accès au pare-feu. À partir de cet accès, en fait, l'attaquant avait la vue sur les réseaux de la sous-station et a pu très facilement en fait s'étendre là où il pouvait. Via cet accès qui est quand même très privilégié d'un point de vue réseau, comme c'est le pare-feu qui gère normalement le filtrage. Et donc on voit que l'attaquant a ciblé plusieurs équipements, donc il a ciblé les RTU, mais aussi les relais de protection et de contrôle, les IHM, et encore une fois les convertisseurs série Ethernet. Et en termes de vulnérabilité en fait, qui lui a permis de cibler ces équipements, encore une fois malheureusement on est sur des choses très basiques, donc compte par défaut sur les RTU, sur les équipements, le relais de contrôle et de protection et sur les interfaces HTTP qu'il a pu voir sur le réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il avait eu la main sur les RTU et les IHM, il a lancé quand même quelques scans réseau en local sur le réseau de la sous-station pour essayer de découvrir d'autres équipements qui n'auraient pas encore ciblé. Enfin, pour finir son attaque, l'attaquant a encore une fois uploadé un firmware qui était corrompu sur les RTU via un accès HTTP au RTU. Il a également, pour d'autres relais, supprimé les fichiers du système de fichiers, ce qui a causé les relais de protection ils ont redémarré et donc n'étaient plus opérants comme après le redémarrage. Il n'avait plus les fichiers qui étaient nécessaires. Puis il a changé, par exemple, la configuration des Moxa pour les mettre en écoute, par exemple, sur l'adresse locale, pour changer leur adresse IP à une adresse locale, et donc ils n'étaient plus joignables sur le réseau. Et enfin, on a vu aussi qu'ils ont déployé des wipers sur les IHM, et donc les IHM du contrôle local n'étaient plus fonctionnels. Donc au final, on est sur des techniques qui se ressemblent un peu, donc on est sur de l'exploitation de mots de passe par défaut, mais un accès initial qui n'est pas du tout le même, donc on est sur exploitation d'une CVE dans Firewall exposée sur Internet pour gagner cet accès initial.
Ce qui est intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est les deux exemples que tu as cités, quoique l'Ukraine est quand même assez vieux là, à ce stade-ci, là, ça fait quand même plus qu'une dizaine d'années. On revient toujours à des vieux problèmes TI qu'on avait il y a longtemps, qu'on a résolus, qui clairement du côté outils ne sont pas encore résolus, n'est encore dans le réel. Donc, autant l'entrée dans le réseau, elle est plus complexe, parce que les réseaux IT sont rendus plus robustes. Et dès qu'on tombe de l'autre côté, on revient comme les réseaux étaient il y a déjà très longtemps, nos IT. Peu de contrôle, peu de mots de passe, peu de mise en œuvre. Et puis moi, ça, c'est ma déduction par rapport à ça. C'est pas nécessairement mon domaine. Mais ces systèmes-là sont vieux aussi, beaucoup. Et les façons de faire n'ont jamais évolué depuis probablement les 30 dernières années, puisque c'est toujours été les mêmes rituels. On fait juste remplacer l'équipement. Ça fonctionne tout de suite. On s'en fout, puis on retourne à la maison après.
C'est un peu ça. Et je pense qu'on souffre parfois de préjugés qu'on peut avoir. On peut penser que ces systèmes sont isolés et donc se dire on peut se permettre de moins bien les sécuriser ou ne pas avoir de détection dessus. Alors qu'on le voit bien, ces systèmes sont de plus interconnectés, que ce soit avec le centre de contrôle, que ce soit, quand on le voit en Pologne, avec un firewall qui est exposé directement sur Internet, avec des VPN aussi. Et il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on a des équipements qui peuvent communiquer avec le cloud pour envoyer des données, pour faire de la maintenance prédictive. Et donc, on est sur des systèmes qui sont quand même de plus en plus interconnectés. Et donc, on peut beaucoup moins se reposer sur leur isolement pour se dire qu'ils sont sécurisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on part de très loin et le chemin est encore long pour arriver à une situation qui est acceptable. Et peut-être pour finir sur donc les exemples d'attaques, j'ai voulu parler d'attaques qu'on peut imaginer mettre en place dans le cadre de missions chez Mendiant. Ou dans les exemples qu'on a eus, souvent on se rend compte que l'accès initial, et je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être très opportuniste, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Mais souvent, ce qui marche plutôt bien, c'est l'accès initial IT pour se documenter. Parce qu'on a quand même envie d'avoir cette information et cette documentation pour faire le moins de bêtises possible une fois qu'on a l'accès à l'outil. Et donc, ça peut être du phishing, du vishing, notamment pour gagner ce premier accès. Et puis, avoir un mot de passe pour le VPN, sur le VPN outil pour avoir un accès direct au réseau outil. On se rend compte qu'au final, ces vulnérabilités qui ont été exploitées en Ukraine, en Pologne, on les retrouve malheureusement encore chez nos clients. Donc on est sur des mots de passe par défaut, sur des équipements qui nous permettent de prendre la main dessus et de causer donc, l'objectif qu'on cherchait. Peut-être une petite mention, ça c'est quelque chose que personnellement je vois souvent sur des missions OT, c'est les connexions VNC qui sont souvent autorisées depuis l'IT sur des IHM, parce que c'est plus facile pour l'opérateur de travailler comme ça. Et donc souvent c'est des connexions autorisées sur le pare-feu qu'on va chercher à exploiter pour gagner un premier accès sur le réseau OT. Comme je disais, on va retrouver des mots de passe par défaut sur les RTU, sur les relais de protection et de contrôle. Et donc, ces accès vont nous permettre, donc, comme je disais, d'accomplir nos objectifs, à la différence qu'on ne déploiera jamais de mauvais firmware corrompus ou de wipers sur les IHM qu'on compromet.
Oui, mais c'est ça, comme je mentionnais d'entrée de jeu, c'est un exercice de Red Team qui sert à améliorer les organisations, à trouver les points qui sont potentiellement faibles, qui vont mener à des problèmes. Donc, nécessairement, ne pas laisser traîner ces fichiers de configuration, ne pas laisser traîner ces diagrammes réseau, ne pas laisser traîner ces choses-là de un. D'éviter la passerelle, justement, la passerelle. Puis ça, c'est parce que là, c'est un peu plate d'être sur un podcast audio, mais le diagramme des kill chains sont très intéressants parce que visuellement, puis c'est les plus beaux diagrammes que j'ai vus jusqu'à présent qui expliquent bien le cycle de passage de IT vers le OT et comment tout ça se matérialise. Je pense que ce genre de diagramme-là manque beaucoup dans la communication qu'on a en général avec le grand public parce que ça nous permet de voir à quel point le problème est là. Et ensuite, le Red Team il va descendre plus bas, justement, dans les équipements, retirer les mots de passe par défaut, segmenter, enlever VNC. Là, ça, c'est des vieilles stratégies, mais je comprends. Mais en même temps, il faut déployer des choses qui ne sont plus comme ça. Et justement, exposer les problèmes pour augmenter l'éducation des gens et des organisations nécessairement. Pour pas qu'on ait des blackouts électriques qui sont causés par une manœuvre comme ça qui, somme toute, n'est pas si complexe que ça.
C'est ça. Et en fait, on pourrait se demander effectivement comment est-ce que ce genre d'exercice peut avoir de la valeur pour un client. Et c'est en fait tout à fait ce que tu as dit. C'est leur permet d'identifier ces trous dans la raquette entre l'isolation de l'IT et l'OT, donc peut-être de la documentation à transférer côté OT, des VM qui sont hébergés, des VM OT qui sont hébergés sur l'IT ou des flux un peu trop permissifs sur les pare-feux. Et donc c'est identifier ces trous et les fixer côté IT, mais aussi côté OT, parce que c'est important qu'on ait cette défense en profondeur. Donc on sécurise le premier niveau, on passe au suivant, donc changer les mots de passe par défaut quand ils sont inconnus. Donc c'est utile pour les clients. Leur apprendre qu'ils avaient un service Telnet qui tournait aussi avec un mot de passe par défaut. Parce que c'est un service qui n'est pas utilisé par eux-mêmes, mais par le constructeur dans certains cas. Et donc, les aider à mieux comprendre leur système, à les sécuriser, ça a de la valeur. Et enfin, déployer cette attaque de bout en bout, ça permet aussi de les aider à développer des use cases de détection qu'ils pourront implémenter en fait, sur leur réseau pour mieux détecter un comportement qui est malveillant. Souvent, ça nécessite quand même beaucoup de travail pour comprendre à quoi ressemble une activité normale sur le réseau. Et une fois qu'ils ont fait ce travail de documentation de ce que c'est que cette activité normale, ils peuvent commencer à détecter des détections sur tout comportement anormal ou sur tout comportement qui chercherait à répliquer les TTP qu'on a déployés dans le cadre de l'attaque.
Ouais, puis il faut aussi comprendre que c'est des réseaux qui sont du côté OT assez simples, assez prévisibles aussi également. Donc c'est assez facile, plus qu'un réseau utilisateur où l'utilisateur moyen est difficile à prévoir sur ses comportements. Le OT est beaucoup plus facile à prévoir sur ses comportements puisqu'il agit dans des paramètres très définis, très restreints. Donc c'est beaucoup plus facile avec un baseline, comme tu le mentionnes, qui ensuite, toute déviation du baseline est facile à détecter pour repérer un potentiel problème.
Effectivement, on peut raisonner comme ça. Typiquement, déployer un firmware sur une machine, ça devrait être fait depuis un poste d'ingénierie qui est connu, sur des horaires de travail connus. Et donc, avoir ce même firmware qui serait déployé depuis peut-être un RTU ou peut-être depuis un autre point réseau, ça peut prêter à question. Mais faire ce travail de cartographie initiale de ce qui est normal pour pouvoir faire la détection, c'est vraiment ce qui est important. Et effectivement, c'est pas forcément un travail qui est facile, mais c'est indispensable si on veut implémenter cette sécurité en profondeur et notamment les aspects de détection sur ces réseaux. Peut-être dernier scénario, donc j'en ai parlé rapidement. Mais c'est par rapport à la connexion donc power line communication entre les centrales de génération et les sous-stations. C'est très important aussi de contrôler comment ces flux vont être autorisés à entrer dans la sous-station. On peut tomber sur des cas où au final on n'a pas forcément de filtrage de ce flux. On fait confiance au final à cette centrale. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est justifiable parce que ça reste un tiers et donc qui peut être attaqué. Et on n'a pas envie qu'une attaque qui ciblerait une seule centrale puisse se latéraliser sur le réseau de transmission qui peut impacter, on va dire, un plus grand scope que le scope initial de la centrale. Et donc, très important de bien comprendre, d'identifier ces connexions, de comprendre les équipements réseau qui vont les supporter, donc est-ce que c'est un routeur par exemple, et donc de contrôler le contrôle d'accès en fait au niveau des flux qui passent par cette connexion. Peut-être pour continuer donc sur les types de vecteurs d'attaque qu'on peut déployer, donc j'avais mentionné aller sur l'IHM, cliquer sur un bouton et donc ouvrir au final le disjoncteur ou le refermer pour perturber le réseau. On peut imaginer des attaques un peu plus avancées, où on ciblerait directement la logique qui est déployée par les contrôleurs de protection, par les relais de protection pour protéger les équipements physiques. Donc souvent, on est sur des logiques qui sont de la détection de tension anormale, d'intensité anormale, donc pour activer et déclencher le disjoncteur. Mais on a aussi d'autres éléments sur lesquels on peut agir, typiquement agir sur la lumière LED qui est affichée par le relais, et donc faire croire qu'elle est allumée alors que ce n'est pas le cas, et donc donner une mauvaise information à l'opérateur, et donc potentiellement causer un problème à cause de ça. On peut bien sûr donc impacter la logique de déclenchement du disjoncteur, comme je le mentionnais. Voilà, on peut aussi impacter d'autres paramètres qui font que, par exemple, quand un arbre tombe sur une ligne électrique, ça va perturber en fait les valeurs qui sont lues par le relais, et donc il va vouloir ouvrir le disjoncteur. Il y a un autre paramètre qui va permettre de contrôler ça, et se dire en quelques millisecondes, on va vouloir essayer de refermer le disjoncteur et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est une logique qui est spécifique, et on peut se dire, au final, on va l'impacter elle-même. Et donc, si on arrive dans un cas où un arbre tombe sur la ligne électrique, en fait, le disjoncteur va s'ouvrir et ne se refermera plus, et donc on aura cette coupure de courant qui aurait pu être prévenue, mais au final, qui arrive, et donc on perd quelques minutes, le temps que l'opérateur remette en marche referme le disjoncteur. Et donc on est sur une attaque qui est un peu plus sournoise, qui est moins évidente qu'un attaquant qui accède à l'IHM et qui ouvre le disjoncteur.
Ouais, c'est ça, le changement des valeurs ou la logique interne du fonctionnement du disjoncteur est justement plus difficile à repérer, puisque ces valeurs-là ont été raffinées avec le temps. Il s'agit juste de le modifier légèrement et on va avoir un comportement qui peut être complètement différent et qui va être apparent que dans des conditions spécifiques. Là, tu nommes notamment un arbre qui tombe sur les fils, est une condition spécifique qui n'est pas très régulière, parce qu'en général. Donc, de ce moment-là, cette condition-là, elle est soulevée que dans un moment très précis. Et si la condition qui est justement programmée par l'attaquant s'invoque à ce moment-là, mais elle va être très difficile à repérer en amont, autant pendant l'incident ou pendant qu'on trouve pourquoi le disjoncteur ne réagit pas comme il devrait. Alors on se retrouve dans une situation peut-être plus complexe à gérer, puis plus, comme tu dis, sournoise, parce que c'est des événements rares qui vont susciter des actions spécifiques.
Exactement. Et donc après, on peut imaginer une investigation qui prendra du temps quand même pour que les ingénieurs remontent à l'équipement qui a fauté et comprennent quelle valeur exactement, quelle logique a été changée. C'est quelque chose qui peut prendre des heures, voire des journées, et qui peut potentiellement passer sous le radar d'une revue, surtout si on n'a pas de journaux en fait, de modifications. Et donc c'est quelque chose qu'on, une fois qu'on comprend, qu'on l'identifie, on peut se dire en fait, changer ses logiques, c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de journaliser et de centraliser quelque part pour avoir une trace de toute modification éventuelle dessus. Et donc, j'ai parlé beaucoup de, au final, comment est-ce qu'un attaquant pourrait cibler ce réseau électrique, les sous-stations. On va peut-être finir sur une note un peu plus positive, c'est qu'il y a quand même des choses à mettre en place, il y a des mécanismes de défense qui permettent aux entreprises de mieux répondre, on va dire, à ces menaces. Au final, si on regarde les TTP des attaquants, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup sur des mots de passe par défaut qui sont déployés sur les équipements. Donc faire l'inventaire des interfaces qu'on connaît et peut-être creuser un peu plus la documentation pour identifier des interfaces qu'on ne connaît pas sur les équipements, ça permet de contrôler si on a un mot de passe par défaut sur ces interfaces-là. Et donc, en modifiant ces mots de passe, ça permet déjà de bloquer l'attaquant à un premier niveau. On peut aller un peu plus loin et se dire, on a changé ce mot de passe par défaut, on n'est plus censé l'utiliser. Et donc, si à un moment, ce mot de passe par défaut a été utilisé sur ces équipements, c'est quand même très louche. Et ça peut être un indicateur qu'un attaquant en fait, est en train d'essayer d'exploiter ces systèmes et donc lever une alerte à ce moment-là. Et ça illustre un peu comment connaître les systèmes et comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ça permet d'avoir un avantage au niveau des défenseurs pour détecter les attaquants. Peut-être un deuxième axe, c'est aussi la mise à jour. Alors évidemment, ce n'est pas la mise à jour sur n'importe quel équipement, mais sur les équipements qu'ils supportent, et puis après test pour être sûr que, c'est, que les mises à jour n'ont pas causé de problèmes sur le système. Mais c'est encore plus important pour les systèmes qui sont exposés à Internet. Donc si on a un VPN qui est sur Internet ou un pare-feu qui est exposé à Internet, c'est quand même des systèmes qui seront exposés aux attaquants, et donc il est, c'est critique de pouvoir mettre à jour ces systèmes pour être sûr qu'on n'a pas de CVE qui serait exploitable pendant plusieurs semaines, comme on a eu le cas en Pologne il y a quelques mois. On peut aussi avoir des choses sur lesquelles on agit au niveau du réseau des protocoles. Donc se dire qu'un accès en SSH ou à une console HTTP d'administration, c'est quelque chose qui ne devrait être fait que depuis des points très spécifiques dans le réseau, et donc bloquer tous ces autres accès depuis d'autres points. Donc ça permet de se dire, si l'attaquant veut accéder à ces services-là, il va devoir, ou elle, va devoir compromettre un poste d'ingénierie qu'on peut défendre un peu plus que d'autres points du réseau plus difficiles à sécuriser. Et peut-être en dernière chose que je vais mentionner, c'est, et qui est très importante en fait, c'est la visibilité sur les réseaux industriels à tous les niveaux, que ce soit le centre de commande. Souvent on peut penser que c'est suffisant, mais mon opinion c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller dans la sous-station, dans la zone de contrôle de la sous-station, dans les zones où sont hébergés les relais de protection et de contrôle. Avoir de la visibilité réseau sur ce qui se passe à ce niveau-là, mais aussi avoir une visibilité sur les événements qui sont générés par ces équipements. Et typiquement, une modification de logique sur les paramètres du relais de protection, ça peut être un événement qu'on journalise quelque part et sur lequel on fait de la détection. Et on se dit, c'est des logiques aussi qui ne devraient pas changer tous les 4 matins non plus. Et donc, si on voit cette modification, on peut prendre 2 minutes pour appeler l'ingénieur et vérifier que c'est quelque chose qui est normal.
Ouais, bah c'est un peu d'injecter dans le monde des outils ce que la culture qui s'est construite depuis dans les 30 dernières années en TI. Justement, on a commencé à acquérir l'expérience, à acquérir les façons de faire pour détecter les anomalies, tout ça. Donc, les outils pourraient bénéficier de cette expérience-là et ces outils-là, peut-être pas les mêmes, mais des outils similaires qui pourraient justement attraper. C'est pas la majorité des problèmes que tu as relatés, justement, le petit récapitulatif positif, puis les choses à faire correctement à la fin, justement, est très utile pour nous aider à aller plus loin. Là.
Exactement. Et donc, en général, l'approche qu'on recommande, c'est vraiment donc, chercher à comprendre dans le détail ces systèmes-là, à partir du SI, un peu d'un point de vue haut niveau, le décomposer en sous-systèmes, donc sous-station A, sous-station B, comprendre les composants, un peu comme ce que j'ai fait au tout début de la présentation, comprendre les composants qu'on a, est-ce qu'on a des équipements réseau, des relais de protection, des contrôleurs, des IHM, etc. Comprendre la fonction de chacun de ces composants, donc permet de comprendre comment potentiellement ces fonctions pourraient être manipulées par un attaquant, ce qui pourrait être intéressant pour un attaquant. Et enfin, pour chacune de ces fonctions, comprendre les interfaces avec des systèmes tiers, externes, avec des valeurs physiques que potentiellement un attaquant pourrait manipuler si, par exemple, on parle de temps GPS, potentiellement du GPS spoofing, ça peut permettre à l'attaquant de manipuler ce genre de paramètres. Et donc ensuite, si on a des fonctions qui dépendent de ces valeurs, ça permet à l'attaquant de contrôler en fait ces fonctions. Mais d'un point de vue plus global, en fait, il faut comprendre les interfaces en fait, entre ces fonctions, ces paramètres et... que ce soit des interfaces internes ou externes, donc vraiment cartographier tout ça permet en fait ensuite de pouvoir designer les bonnes mesures de protection, les bonnes mesures de détection aussi, comprendre ce qu'un attaquant pourrait trouver intéressant et donc détecter toute modification de ces éléments-là.
Donc ça compléterait le grand tableau pour les sous-stations?
Je pense que ça permet de compléter le grand tableau. Donc se dire, comprendre ces systèmes dans le détail, déployer les bonnes mesures de sécurité, donc changer les mots de passe, identifier les équipements exposés sur Internet et les mettre à jour. Et donc faire tout ce travail et se dire, on a quelque chose qui est très critique, c'est le disjoncteur. Et donc être sûr qu'on a de la visibilité sur tout ce qui peut impacter ce disjoncteur, je pense que c'est, si on fait ça, on est quand même pas mal.
Je te remercie énormément pour ton partage. Je te remercie également de m'avoir accueilli à Paris. Justement, on t'a supposé le faire en virtuel, on le fait en personne. C'est encore mieux, c'est encore plus agréable justement de t'avoir rencontré. Fait que, bref, merci énormément, puis j'espère qu'on va se reparler bientôt.
Merci à toi, et c'est un plaisir de t'avoir accueilli ici. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, et puis à bientôt.